Notre Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, a été écrite dans le but de susciter l'attente d'un sauveur. Il voulait créer cette espérance, cette attente dans son peuple ou dans le peuple de l'époque. Et aussi de préparer les voies pour sa venue. Donc l'attente d'un sauveur est préparer les voies pour sa venue. Nous sommes à la page 3. Nous sommes en train d'aborder maintenant le deuxième des quatre temps de notre étude, les temps de préparation. Et l'Ancien Testament, il nous révèle comment Dieu se choisit un peuple particulier, et en fait son instrument pour amener le Rédempteur dans le monde. Comme tous les êtres humains, le Sauveur promis lui-même, un être humain, doit naître au sein d'un peuple ou de l'autre. Et Charles tout à l'heure a parlé d'un être humain qui allait être le moyen par lequel Dieu sauve son monde et les êtres humains de leur péché. Bon, c'est le peuple hébreu, les Juifs, que Dieu a choisi pour lui donner naissance, ce personnage. Bon, certains se scandalisent de cette élection. Pourquoi les Juifs? Surtout les Juifs. Est-ce que c'est de l'antisémitisme qui provoque cette question? Mais si Dieu avait choisi les Égyptiens, ou à nos jours les Français ou les Chinois, quelqu'un posera la question, pourquoi ces gens-là? Parce que c'est toujours, on espère que ce soit toujours nous, pas les autres. Pourquoi ces gens-là? En tout cas, Dieu n'a pas élu. Il n'a pas élu les Juifs parce qu'ils avaient quelque chose de spécial, pas parce qu'ils étaient un peuple nombreux ou puissant ou plus doué que les autres, mais parce qu'ils aimaient leur père. C'est ça la raison. Et je vous donne un passage, peut-être vous n'avez pas, si vous voulez noter, le lire, c'est en Deutéronome chapitre 4, le verset 37. Deutéronome 4, le verset 37 et chapitre 7, le verset 8, où cela est dit. Que Dieu a choisi ce peuple-là parce qu'il aimait leur père. Il les a choisis en vue de bénir la famille humaine tout entière. Son but n'était pas bénir seulement ce peuple-là, mais de bénir tous les peuples de la terre. Et toute l'histoire d'Israël est jalonnée d'indices que Dieu révèle au peuple élu afin de faire naître chez lui cette attente qu'il y aura un jour quelqu'un qui va venir pour nous sortir de cet horrible endroit que nous nous trouvons, c'est-à-dire un état de péché. Un jour doit apparaître un homme de majesté, chargé d'accomplir deux tâches. Comme nous avons dit tout à l'heure, ces deux tâches sont de racheter l'humanité, la rédemption par la mort du Christ, de racheter l'humanité tombée sous l'emprise du mal, et deuxième tâche, de régner sur le monde. Cette personne va venir nous sauver du péché, de nos péchés, mais aussi régner sur nous. Et cette attente sera signifiée et entretenue dans l'Ancien Testament par deux moyens, des prophéties et des préfigurations messianiques. Bon, qu'est-ce que c'est une préfiguration d'abord? Le mot préfiguration désigne un événement historique, par exemple le sacrifice d'Isaac, le fils d'Abraham, ou l'exode des Israélites de l'Égypte. Où la préfiguration désigne une institution sociale ou religieuse, par exemple le culte sacrificiel au temple, ou la royauté, comme la famille de David que nous allons voir dans un moment. Ou la préfiguration désigne un personnage, comme David, ou Jonas, ou Melchizedek. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Melchizedek? On va voir par la suite. Bon. Ce qui annonce ces préfigurations à l'avance, par symbole, ce que sera et ce que fera le Messie. Ce que sera et fera le Messie. Et on parle alors de préfiguration messianique. Bon, cet adjectif messianique vient du mot hébreu qui nous donne le mot Messie, ou qui correspond au grec Christ, le Christ, et signifie en français loin, celui qui est loin d'huile, ou l'élu, ou celui qui est sacré roi. Dans l'Israël antique, on versait de l'huile parfumée sur un homme pour signifier que Dieu l'a désigné roi. L'onction était le rite d'investiture royale et correspond en quelque sorte au couronnement des rois de France à Reims. Tout le monde s'est rassemblé à Reims pour le couronnement du roi. Et dans nos Bibles françaises, le mot Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, il faut se rappeler de ça tout de suite. C'est le titre royal par excellence. On a tendance de voir Jésus, trait d'union Christ, et on pense à Jésus-Christ comme moi je m'appelle Arlen Hendricks. Non, c'est pas ça. C'était un titre, et en effet, c'est malheureux, mais la plupart des traductions ne font pas attention, mais ça aurait pu être mieux traduit, Jésus le Christ, toujours avec l'article définitif, le Christ. Il en viendra à désigner dans son sens technique ce mot Christ ou Messie, le roi que Dieu consacre pour libérer son peuple. Maintenant, l'expression prophétie messianique désigne une prédiction ou un oracle que les hommes ou les femmes inspirées de Dieu prononcent au sujet du roi libérateur. Le prophète Michée, par exemple, si vous étiez là pour le séminaire l'année passée sur le prophète Michée, a dit que le Messie doit naître à Bethléem. C'est assez précis comme annonce. Mais toutes les prophéties ne sont pas nécessairement aussi limpides, aussi claires, aussi nettes. Mais elles sont toutes contrairement aux préfigurations d'une forme verbale. La préfiguration, c'est toujours un symbole, tandis qu'une prophétie est toujours une annonce, un oracle verbal. Commençons donc notre survol de l'histoire d'Israël, les temps de préparation. Et nous allons traverser les siècles assez rapidement. Donc encore, je vous invite à prendre des notes, mais aussi de vous boucler les ceintures de sécurité, parce que nous allons passer vite maintenant.
Alors, nous allons parler des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est par Abraham que l'histoire du peuple juif commence. Il a été appelé par Dieu alors qu'il habitait pas loin de Bagdad, il y a 40 siècles. Le texte des Hébreux, chapitre 11, versets 8 et 10, « Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. » Il quitta son propre pays sans savoir où il allait. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le texte dit bien que Dieu allait lui donner un pays en possession. Et pourtant, même établi sur cette terre de Canaan, la terre devenue la terre promise pour Israël plus tard, Abraham n'était pas chez lui. Il ne se considérait pas comme étant résident permanent. Il était toujours un voyageur sur la terre. Il se considérait comme un pèlerin et quelqu'un qui était étranger et qui ne faisait que de passer. Tout chrétien aussi, à l'instar d'Abraham, doit apprendre cet état d'esprit. Nous ne sommes aussi que des étrangers sur la terre et c'est Abraham qui nous l'a appris. Car il attendait, comme dit le texte, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est-à-dire la cité céleste. Abraham était loin, très loin, comme nous tous, d'être un saint. Nous avons peut-être tendance à le canoniser, mais c'était pas un saint, il avait ses péchés comme nous avons les nôtres. Mais il avait ceci, il avait confiance en Dieu. Il avait une confiance inébranlable en Dieu. Et cette confiance a fait de sa vie quelque chose de nouvel, quelque chose d'extrêmement beau, et a transformé son existence en un retour à la maison, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il a considéré qu'il était en chemin vers une victoire finale et il ne s'en est jamais lassé de cette idée d'aller vers l'avant en attendant la cité que Dieu avait préparée pour lui. Le texte dit même que Dieu était heureux de s'appeler, d'être appelé le Dieu d'Abraham à cause de sa foi. Et c'est aussi pourquoi la Bible appelle Abraham le père des fidèles, le père des croyants. Alors Dieu choisit Abraham, un homme d'une grande foi. Il l'appelle à quitter sa patrie en Mésopotamie. Ce qu'il fait, il quitte sa patrie, il vit en Canaan, et Dieu lui fait trois promesses. Il faut prêter particulièrement attention à ces trois promesses. Voici les trois promesses. La première, c'est une promesse d'une grande nation. Une grande nation naîtra de lui. C'est la nation d'Israël qui doit naître d'Abraham. La deuxième, c'est ses descendants occuperont le pays de Canaan en Palestine. Là, c'est la promesse de la terre promise. Et troisièmement, toutes les nations de la terre seront bénies à travers sa descendance. Et cela, c'est la promesse du Messie qui doit venir et qui naîtra de la lignée d'Abraham, qui sortira donc des descendants d'Abraham. Ces trois promesses serviront de point de départ à tout le récit biblique à partir d'Abraham. À partir de maintenant, à partir de ce moment, la Bible va raconter comment Dieu accomplit les promesses qu'il fait à ce voyageur sur la terre, à cet homme de foi. Abraham devient ainsi, après Adam, le deuxième chaînon dans cette lignée messianique qui est tracée d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. Donc il y a Adam, ensuite la lignée passe par Abraham. Et puis ensuite, Dieu renouvelle sa triple promesse aux descendants immédiats d'Abraham, à Isaac son fils et à Jacob son petit-fils. Et à Jacob son petit-fils, Dieu donne le nom d'Israël. Alors le libérateur promis sera donc un être humain, il sera de la race d'Abraham et il sera du peuple d'Israël. Vous voyez que le dessein se définit, se précise, Dieu établit son plan, il est en train de le développer et de montrer à ceux qui sont concernés comment il est en train de travailler. Vous connaissez l'histoire de Joseph et de comment Joseph est un des fils de Jacob, parce qu'il en a eu 12. Joseph, qui a été amené en Égypte, et il était parti en esclavage en Égypte pour devenir plus tard, 13 ou 14 années plus tard, quelque chose comme le premier ministre. À la fin de la vie d'Israël, de Jacob, devenu Israël, Israël est descendu en Égypte avec ses autres fils, parce que Joseph, devenu puissant là-bas, les avait invités à venir. Toute la famille descend. Donc Israël, avec ses 12 fils, s'établissent en Égypte et ils deviennent les 12 tribus d'Israël. Chaque fils, avec toute sa famille, est une tribu. Donc il y a 12 tribus d'Israël. Et au moment où Jacob sait qu'il va bientôt mourir, il rassemble ses 12 fils et il prononce sur chacun d'eux une bénédiction, une sorte de bénédiction prophétique. Et il veut annoncer par lequel des fils va passer la lignée prophétique, la lignée messianique. Il a 12 fils, cette lignée ne peut pas passer par les 12, il faut qu'il en choisisse un. Et c'est bien sûr Dieu qui le guide dans ce choix. Si vous avez vu récemment un très bon film en deux parties qui est passé à la télévision sur la vie de Joseph, un très bon film qui a bien suivi les détails de ce texte de Genèse, à une exception près, à une exception très très grande, dans le film, la lignée messianique, on l'a fait passer par Joseph. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Dans la Bible, c'est un autre des fils de Jacob par qui cette lignée doit passer. Écoutez le passage de Genèse 49, verset 10. C'est Jacob qui parle. « Le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda. » Juda est le quatrième fils de Jacob. « Dans la famille de Juda, le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront bannis. » Prophétie messianique qui annonce que le Messie sera donc un être humain, qui sera de la race d'Abraham, du peuple d'Israël et de la famille de Juda. Donc les choses se précisent encore plus, vous voyez sur le schéma que vous avez. C'est à la tribu de Juda que sera dévolue la royauté en Israël. Un jour, selon cette prophétie, naîtra un judéen ou un juif. Et il se servira du sceptre royal mis en réserve pour régner sur les nations. Cet oracle est sans doute la plus ancienne prophétie de la Bible se référant à un Messie royal, c'est-à-dire au Christ. Maintenant, Jacob et sa famille sont en Égypte. Jacob meurt, mais sa famille reste là. Sa famille reste en Égypte pendant 430 ans. Plus de 4 siècles, la famille reste là. Et à la suite d'un changement de dynastie, ils deviennent et restent jusqu'à Moïse. Serviteurs des Égyptiens, ils deviennent donc les esclaves de la nation d'Égypte.
Dans leur cas, c'est assez malheureux maintenant parce qu'au début, Joseph, comme il a dit, était premier ministre. Ils étaient bien vus par les Égyptiens, mais maintenant ils sont des esclaves. Et du fond de leur servitude, les Israélites, ils appellent le secours de Dieu. Et Dieu envoie à la cour égyptienne pour obtenir leur départ un homme du nom de Moïse. Et vous avez tous vu le film Les Dix Commandements, donc je n'ai pas plus besoin de parler. Mais encore, ce film a des problèmes, pas mal de problèmes du point de vue biblique. Il y a beaucoup d'inventions là-dedans. Mais le Pharaon, voilà ce qu'il dit la Bible. Le Pharaon décide de ne pas perdre la main-d'œuvre si bon marché, donc il s'obstine dans son refus de laisser partir le peuple d'Israël. Et c'est alors que Dieu intervient avec les arguments de proie, je dirais une série de 10 jugements exécutés contre le pays, les célèbres 10 plaies d'Égypte. Ça a commencé avec de l'eau qui change en sang, il y a les grenouilles, il y a un peu de tout qui frappe le pays. Mais le coup décisif qui porte est porté sur la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés. Dieu frappe de mort tous les Égyptiens, ou tous les premiers-nés, pardon, des Égyptiens. Donc, à cause de cette dernière plaie, Israël est délivré du joug de l'esclavage. Or, le Nouveau Testament trouve dans ces événements, comme nous avons dit tout à l'heure, les événements de l'Exode, une véritable mine de préfiguration messianique. C'est pourquoi j'ai pris le temps de définir ce terme préfiguré. Parce que cette délivrance de l'esclavage égyptien signifie à sa manière, imparfaitement mais réellement, une libération que seul le Christ réalisera en permanence, ou parfaitement ou pleinement. On va vous donner un exemple. L'institution de la Pâque juive. On a la Pâque chrétienne, mais ça se base sur la Pâque juive. Qu'est-ce que c'est la Pâque juive? Bon, lors de la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés, Dieu prescrit aux Israélites le moyen de sauver leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, chaque famille doit tuer un agneau sans défaut et prendre son sang pour marquer les linteaux de la porte de sa maison. L'ange exterminateur verra ce sang et passera par-dessus de cette maison-là. Et c'est le sens, en effet, du mot « Pâque ». Le mot veut dire, ou signifie littéralement « passage par-dessus ». C'est de cela que vient le mot. Bon, il est bien évident que Dieu aurait pu sauver les premiers-nés d'Israël sans imposer au peuple ses sacrifices sanglants. Il aurait pu le faire d'une autre manière. Il lui aurait suffi, par exemple, de donner des instructions à l'ange de la mort qui ne touche pas aux Israélites. Bon, la question est ça aussi, pourquoi donc cette mise en scène? Pourquoi ce sacrifice sanglant? C'est que le rite de l'agneau pascal doit servir d'enseignement sur le principe de la rédemption. Nous avons parlé des deux choses, la rédemption et du règne du Christ, n'est-ce pas? Et ça va nous expliquer des choses au sujet de la rédemption. Bon, pour nous, ce mot rédemption est un terme technique religieux. Mais pour les gens de l'époque, il appartenait plutôt au langage commercial ou juridique. Il signifiait littéralement rachat, de racheter quelque chose. Il désignait par exemple la somme d'argent d'un esclave qu'un esclave devait pour racheter sa liberté à son maître. Et il prenait ce qu'il a pu ramasser comme rachat et le poser au pied de son maître. C'était ça l'idée de rédemption dans ce sens-là. Ou encore, le mot signifiait la rançon qu'une famille devait verser pour faire libérer un prisonnier de guerre, par exemple, ou en cas d'un enlèvement, pour payer la rançon de quelqu'un qui a été kidnappé, par exemple. Bon, l'agneau pascal sacrifié montrait aux Israélites le prix de leur rachat, ce qu'ils ont dû ou ce qui a été payé pour leur liberté de l'esclavage en Égypte. S'ils s'échappaient à la mort, c'est que quelqu'un, dans ce cas l'agneau pascal, il a payé à leur place. Bon, tel est le sens donc du mot de la fête de la Pâque, qui deviendra par la suite la plus importante des célébrations annuelles du peuple hébreu dans la Bible. Regardons maintenant comment le rituel pascal anticipé la rédemption accomplie par le Christ et le représenté de façon voilée. Vous avez, je crois, un schéma, la Pâque juive, n'est-ce pas? À gauche, vous avez la mort des premiers-nés, les Égyptiens. À droite, ce qui signifie, ça préfigure, si vous voulez, la mort spirituelle. À gauche, vous avez l'agneau pascal. À droite, vous avez l'agneau de Dieu, qui est Jésus. Et c'est qui est-ce qui a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu? Est-ce que ça vous savez, c'était qui? Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis, à gauche encore, le rachat des premiers-nés qui préfigure le pardon des péchés.
Pour nous sauver de la mort spirituelle, alors, Jésus, l'agneau de Dieu, verse son sang sur le bois de la croix, et nous apporte ainsi le pardon de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, le Christ a été sacrifié comme notre agneau pascal. Il est intéressant et même fascinant de remarquer à quel moment de l'année, à quelle époque de l'année Jésus a été sacrifié. Et quand vous lisez dans vos Bibles, vous voyez que c'était pendant la Pâque juive que Jésus, l'agneau pascal de Dieu, a été sacrifié. Ceci n'était pas une coïncidence. C'est Dieu qui révélait symboliquement, par avance, son dessein de rédemption. Et Jésus devient la pièce maîtresse du puzzle biblique. À la lumière de son évangile, nous arrivons donc à comprendre ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament et ce qu'il préparait. Pourquoi donc fallait-il une solution si radicale? Mais la raison, c'est parce que le mal était radical, le mal était très profond et à une maladie profonde, il fallait une solution profonde. On ne soigne pas un cancer avec un petit pansement et quelques aspirines et téléphonez-moi demain. C'est quelque chose de sérieux qu'il faut traiter sérieusement. Donc c'est pour cela que Dieu a choisi ce moyen-là. À la sortie d'Égypte, pour revenir à Moïse et les Israélites, à la sortie d'Égypte, Moïse conduit le peuple, qui sont maintenant libres de leur esclavage, jusqu'au mont Sinaï. Devant le mont Sinaï, Dieu répète les promesses qu'il avait faites à Abraham et il donne au peuple cette loi, leur propre loi, qui est appelée communément la loi de Moïse. Je rappelle en passant que cette loi de Moïse a été donnée au peuple juif. Cette loi n'a pas été donnée au monde dans son entier, mais au peuple juif. Remarquons en passant également que Dieu avait déjà sauvé ce peuple avant de lui donner sa loi. Cela veut dire que la loi ne doit pas devenir le moyen du salut. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu qui nous donne notre rédemption. Après, la loi vient nous régler notre manière de vivre. Et c'est pour cela que la loi de Moïse a été donnée au peuple juif pour régler la vie de ce peuple. Maintenant, la législation de Moïse, qui est contenue donc dans les premiers livres de la Bible, les cinq premiers, le Pentateuque, comporte en gros trois sortes d'ordonnances. Il y a premièrement des ordonnances morales, des règles morales, comme dans les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, etc. Des règles morales. Deuxième sorte de loi, une sorte de code civil. Tout un tas de possibilités sont examinées, ce qu'il faut faire si j'ai un bœuf et il sort de son enclos, il va blesser le voisin. Cela est examiné dans la loi de Moïse. Quelle est ma responsabilité devant mon voisin qui a été blessé par mon animal qui m'appartient? Et puis, troisièmement, il y a des prescriptions religieuses ayant affaire avec les sacrifices, les fêtes annuelles, les cultes et la prêtrise ou le sacerdoce. Dans le dessein de Dieu, le régime religieux fondé sur la loi de Moïse a un rôle pédagogique pour préparer le peuple élu, le peuple juif, à la venue de leur Messie, à la venue du Christ. Alors ce rôle de pédagogue confère à la loi deux qualités. Premièrement, cette loi est préfigurative, dont Arlen nous a déjà parlé. Elle est une figure, elle nous montre par des figures certaines choses qui vont arriver. Hébreux chapitre 10, verset 1, la loi juive n'est pas la représentation exacte des réalités, elle n'est que l'ombre des biens à venir. Certaines choses qui se faisaient ou qui se disaient dans la loi de Moïse étaient des représentations par l'image de réalité qui devait se présenter plus clairement plus tard dans l'alliance qui était donnée par Christ. Et puis, deuxièmement, cette loi de Moïse est provisoire. Provisoire, Galates chapitre 3, versets 19 et 24. Pourquoi la loi a-t-elle été donnée? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. Elle devait durer, notez bien, elle devait durer jusqu'à ce que vienne le descendant d'Abraham pour qui la promesse avait été faite. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à ce que vienne le Christ. Et le verset 25 que vous n'avez pas sur votre cahier dit « La foi en Christ étant venue, nous ne sommes plus ou nous ne dépendons plus de ce pédagogue. Nous ne dépendons plus de ce pédagogue. À partir du Sinaï, et après avoir reçu la loi de Moïse, les Israélites se mettent en marche vers la terre promise, qui leur a été promise, justement, selon les choses que Dieu a dites à Abraham, et puis ensuite à ses descendants après lui. Seulement, cette première génération d'Israélites n'entre pas dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'elle est très désobéissante. Et maintes fois dans le désert, elle refuse d'obéir à Dieu, ou elle se plaint de ses ordres, ou elle revient même à construire des idoles égyptiennes pour les adorer. Et finalement, Dieu décrète que ce peuple, cette première génération en tout cas, n'entrera pas dans sa terre promise. Donc, cette génération est condamnée à errer pendant une génération, pendant 40 ans, dans le désert, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient 20 ans et plus à la sortie d'Égypte soient morts. Et c'est donc leurs enfants qui, après, rentrent dans la terre promise. Cette terre qui a été promise à Abraham.
Et c'est à Josué, donc, l'aide de camp, le successeur de Moïse, que Dieu confie la charge de prendre possession de la terre promise. Cette terre qui a été annoncée à Abraham il y a longtemps. Et maintenant, c'est Josué qui va les conduire à travers le Jourdain et jusque dans le pays, et puis le partager entre les 12 tribus. Et en tant que chef conduisant le peuple élu dans la patrie de Dieu, que Dieu lui avait destiné, Josué est une préfiguration du Christ. En effet, le mot Jésus, le nom Jésus, c'est la forme grecque du nom hébreu Josué. Et on a ici une préfiguration en personne du Christ. L'installation du peuple en Palestine marque l'accomplissement des deux premières promesses faites à Abraham, qu'il aurait une grande nation qui naîtra de lui, et cette nation c'est Israël, et deuxièmement ses descendants posséderont le pays de Canaan en Palestine qui est la terre promise. Ainsi, ayant reçu la charte qui est pour elle la loi de Moïse, Israël est formellement constitué comme nation. Ils sont un peuple maintenant qui ont une loi, qui sont dirigés comme une nation. Et elle occupe maintenant le territoire promis à ses ancêtres. Bon, juste avant sa mort, quand même, Moïse a prononcé un dernier discours et avertissement au peuple Israël avant qu'il prenne le pays. Et voilà ce qu'il dit, Deutéronome 28. Veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi de Dieu rassemblés dans ce livre et respectez celui qui porte le titre glorieux et redoutable de Seigneur votre Dieu. Sinon, le Seigneur lui-même vous arrachera à la terre dont vous allez prendre possession et vous dispersera parmi les nations étrangères d'un bout du monde à l'autre.
Pendant la période des juges, la Bible nous explique qu'apparemment le peuple n'a pas entendu ou n'a pas respecté cette dernière parole de Moïse. N'a pas cru que ces choses arriveraient vraiment. Pendant les trois premiers siècles de son existence sur la terre promise, sur le territoire de Canaan, la nation d'Israël ressemblait plus à une confédération de tribus plus ou moins indépendantes qu'à un État vraiment uni. Et l'histoire de cette époque est marquée par le fait que tout le monde faisait à peu près ce qu'il voulait. Et il y a un cycle qui se dessine, un cycle qui se répète plusieurs fois. Et il y a premièrement rébellion contre Dieu. Ensuite, il y a oppression étrangère, parce que Dieu envoie contre les rebelles quelqu'un qui doit les châtier, une nation étrangère, un autre roi. Et puis, il y a repentance, le peuple crie vers l'Éternel de venir les aider, et puis Dieu leur envoie un sauveur, et il les délivre de leur captivité ou de leur esclavage. Et ce cycle se répète maintes et maintes fois pendant ces périodes, et même pendant la période qui a suivi. Voici un exemple de ce cycle dans le passage de Juges, chapitre 3, versets 12 à 15. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dressa contre eux Eglon, roi de Moab. Eglon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites pour aller attaquer Israël. Ils s'emparèrent de la ville de Jéricho. Les Israélites furent soumis au roi Eglon pendant 18 ans. Ils appelèrent alors le Seigneur au secours et celui-ci leur envoya un libérateur. Un libérateur, c'est-à-dire un juge. Non pas un président de tribunal judiciaire, mais un chef militaire. Quelqu'un qui militairement était capable de rassembler les troupes et de chasser l'ennemi. Les juges les plus célèbres de cette époque sont donc Gédéon, Samson, la femme Déborah et surtout Samuel. Samuel qui est un peu une transition entre la période des juges et la période des rois. Parce que c'est pendant la vie, vers la fin de la vie de Samuel, que les Israélites commencent à réclamer un roi, parce qu'ils veulent être comme tous les autres peuples à côté d'eux.
Et cette demande d'un roi, d'avoir un roi, représente d'une part un rejet de Dieu. Parce que jusqu'à là, le peuple était dirigé par un gouvernement central, mais c'était Dieu qui dirigeait en fin de compte. C'est ce qu'on appelle une théocratie. C'était Dieu qui était en contrôle. D'autre part, quand même, l'institution de la royauté que le peuple demande et que Dieu avait prévu quand même dans sa loi de Moïse deviendra entre les mains de Dieu un nouveau moyen de grâce préparant la venue du Messie. Et ceci est très important. La monarchie permettra à Israël de faire l'expérience de l'unité intérieure basée sur l'autorité d'un roi unique, celui que le Seigneur lui-même rendra. C'est-à-dire, c'est celui que Dieu choisira qui va régner sur le peuple. De même, Jésus sera pris du sein de son peuple pour être constitué roi. Donc c'est Dieu qui choisit ce Messie ou ce roi-là.
Le premier roi est un homme grand et un guerrier militaire qui s'appelle Saül. Il vient de la tribu de Benjamin. Mais le texte biblique retient surtout que Saül désobéissait très très souvent à Dieu. Et Dieu finit par le rejeter. Comme c'est dit dans Matthieu 15, 23, « Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus le roi. »
Bon, le deuxième roi, c'est David. Et il est, bien sûr, quand on lit dans la Bible, le roi le plus important du peuple hébreu. Et c'est dans la personne de David, ce dernier fils d'un paysan de Bethléem, c'est très important, rappelez-vous de la prophétie de Michée déjà, de la tribu de Juda, rappelez-vous de la bénédiction prophétique que Jacob avait donnée, ou Israël avait donnée à ses 12 fils, il a mentionné Juda, que Dieu donne aux Israélites un roi, dit-il, selon son cœur. Dieu a dit, je choisis un homme selon mon cœur. Bon, David sera un roi qui correspond au désir de Dieu et qui se conformera à sa parole. Un homme, comme on avait dit avec Abraham, qui avait bien sûr ses faiblesses et ses péchés, et c'est intéressant son histoire, mais aussi un homme qui aimait la loi de Dieu. Dans plusieurs de ses psaumes, par exemple, il parle de comment j'aime ta loi, je médite ta loi jour et nuit. Voilà comment était son cœur. Et son règne marquera l'apogée de la puissance et de la gloire d'Israël en tant qu'une nation. Nous arrivons avec David à peu près mi-chemin entre Abraham et Jésus. 1000 ans se sont écoulés depuis les promesses faites à Abraham d'une descendance qui bénira toutes les nations de la terre. Et encore 1000 ans vont s'écouler avant qu'arrive ce descendant d'Abraham. Et au sujet de la conception royale du Sauveur à venir, un oracle du prophète Nathan vient apporter une nouvelle précision. Le Messie sera issu de la dynastie de David. Jacob avait dit que c'est de Judas qui viendra la royauté. Et maintenant, c'est Nathan, le prophète, qui précise que ça va venir de la maison de David dans cette royauté. 1 Samuel 7, verset 16. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Je crois que vous avez appris le schéma, n'est-ce pas? Il y a Adam, Abraham, Israël, Judas, David. Vous voyez comment ça se précise maintenant. Au début, c'était général. Maintenant, ça se concentre sur une famille, une lignée royale. Bon, c'est de la famille royale de David que sortira ce personnage lointain et mystérieux qui n'est autre que le Messie lui-même. On comprend alors le titre « Fils de David » appliqué à Jésus dans l'évangile, dans les évangiles plutôt, qui exprime la foi dans son messianisme. Quand on parle de lui comme fils de David, ils étaient en train de voir en lui le Messie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 66 chapitres dans la Bible qui parlent de David. 66 chapitres dans la Bible qui sont consacrés au récit de la vie de David, qui se lit presque comme un roman. En effet, c'est très intéressant, je vous conseille de le lire. Vous allez être impressionné, mais aussi surpris parfois, même scandalisé parfois, en lisant cette histoire. Mais nous pouvons quand même apprendre des vérités spirituelles et merveilleuses en lisant non seulement les textes qui parlent de David, mais en lisant ce que David a écrit. David était un musicien accompli. Et il a composé en effet de nombreux poèmes ou cantiques qui sont rassemblés dans ce que nous appelons le livre des psaumes. Bien sûr, pas tous les psaumes sont à David, mais il y en a une grande partie qui sont. Dans certains de ces psaumes, appelés les psaumes royaux, parce qu'il parle d'un roi, David évoque un roi éternel et tout-puissant qui, en quelque sorte, sert de modèle idéal pour la monarchie davidique. C'est-à-dire les descendants de David qui vont suivre. Par exemple, le psaume 2 est le premier de ces poèmes et le premier document hébreu à employer le terme technique de Messie. C'est le Messie lui-même, il me semble, qui parle ici dans ce passage à travers David, qui nous parle de la prophétie de Nathan qu'il appelle le décret du Seigneur. Psaume 2, versets 7 à 9. « Laissez-moi citer le décret du Seigneur, il m'a déclaré. C'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu pourras les briser comme un pot d'argile. Bon, » le psaume 110, un autre de David, nous apprend que le Messie sera à la fois roi universel, c'est-à-dire sur tout le monde, pas seulement de certains peuples, mais aussi un prêtre éternel. Ce qui est étonnant, ce n'est pas souvent qu'il y a les deux rejoints dans une personne. Psaume 110, le verset 1. Déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi. Viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marche-pied. Et puis le verset 4. Le Seigneur a fait ce serment, il ne s'en dédiera pas, tu es prêtre pour toujours. Bon, ces deux psaumes, les textes de l'Ancien Testament les plus fréquemment cités dans les évangiles du Nouveau Testament, visent à travers David et ses successeurs sur le trône d'Israël, ils visent le Messie. C'est ça qu'ils ont en vue. Il sera un roi dont le règne dépassera les rêves les plus fous de ses prédécesseurs dynastiques. Dans la 8e année de son règne, David marche sur une ville jébuséenne. Et il s'en empare, il s'installe le siège de son gouvernement. Et cette ville, nouvelle capitale de sa dynastie, de son gouvernement, s'appelle Jérusalem. Et justement, toutes les promesses et l'attente du Messie, toutes les promesses messianiques d'Israël se concentrent désormais sur la cité de David et sur le trône de David. C'est très important, donc on va voir cela.
Dans cette cité de David, David aurait voulu entreprendre la construction d'un grand temple à l'honneur de son Dieu. Dieu ne le lui a pas permis. Il l'a permis plutôt à son fils Salomon. C'est à lui qu'il est donné de réaliser ce projet tellement cher au cœur de son père. Et il l'a construit, ce temple, le temple, comme on dit, de Salomon. Cet édifice sacré n'était pas pour le peuple juif la demeure de Dieu au sens matériel, comme si Dieu pouvait être contenu dans un édifice sur la terre, lui qui est créateur de toutes choses. Mais c'était plutôt le signe tangible, palpable, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'était là qu'on allait l'adorer, et sa gloire au moment de la dédicace du temple était descendue dans ce temple. Donc Dieu était présent ici, bien que non contenu dans cet édifice. Lors de la prière de la dédicace, dans 2 Chroniques 6-8, Salomon a dit: « Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà te contenir, encore moins ce temple que j'ai construit. » La foi d'Israël tourne désormais autour de deux institutions qui ont déjà été identifiées et qui sont centrées toutes les deux à Jérusalem, qui est maintenant devenue la ville sainte. Il y a le trône de David qui y est, signifiant donc le règne de Dieu à travers son roi. Et puis il y a le temple qui représente l'idée de rédemption. Parce que quand on parle de temple, on parle de sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, on parle de rédemption. Donc avec la royauté davidique et le culte sacrificiel en place à Jérusalem, les pièces du puzzle continuent de se mettre en place. Et même s'il n'y en a pas encore assez pour discerner très très clairement exactement ce que Dieu a en tête, au moins on commence à entrer dans sa logique. Et ceci nous permettra le moment venu d'apprécier correctement le sens de la mission de Jésus.
Bon, Salomon a commencé bien. Il a même demandé à Dieu de la sagesse pour bien gouverner son peuple. Et Dieu lui a accordé la sagesse et aussi la richesse, parce qu'il n'avait pas demandé ça, la gloire et la richesse. Mais sous le règne de Salomon, j'avais déjà dit que c'était sous le règne de David que l'apogée est arrivé en Israël. Mais sous le règne de Salomon, et en grande partie par sa faute, le peuple tombe dans ce que j'appelle le paganisme ou l'idolâtrie et doit subir un châtiment qui est la division de la nation. Le peuple va être divisé. Ils étaient un peuple réuni sous un seul chef, le roi de Jérusalem, de la lignée royale de David, mais le pays maintenant va être divisé. Et à la mort de Salomon, 10 des 12 tribus font sécession et forment un État indépendant qui s'appellera désormais Israël. Donc, quand vous lisez dans certains, il faut faire attention quand vous lisez dans votre Bible pour bien situer le contexte, pour savoir de qui il parle. Mais la partie qui a fait sécession, c'est Israël ou le Royaume du Nord. Et la plupart du temps, sa capitale était à Samarie ou Éphraïm aussi. Et puis, les deux tribus quand même restent attachées à la dynastie davidique et portera le nom de Juda, ou le royaume du sud. Donc, encore, il faut faire attention. Si la Bible dit Israël, est-ce que c'est avant la division, ça parle de toute la nation, ou est-ce que c'est après la division, ça ne parle que du nord, tandis que Juda représente le sud. Bon, du vivant de Salomon, c'est-à-dire dans les dernières années de sa vie, en effet, peut-être la dernière année de sa vie, Dieu annonce la division imminente du royaume à un dénommé Jéroboam, chef des tribus rebelles et premier roi d'Israël du Nord. Et Dieu dit ceci à Jéroboam, 1 Roi chapitre 11, « Je ferai cela, c'est-à-dire cette division, parce que les Israélites m'ont abandonné. Ils n'ont pas obéi aux lois et aux règles que je leur ai données, que je leur avais données. C'est au fils de Salomon que j'enlèverai le royaume. Et à toi, Jéroboam, je donnerai 10 de ces tribus. Mais je laisserai quand même une de ces tribus à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y manifester ma présence parmi vous. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël pour humilier les descendants de David, mais je ne les humilierai pas toujours. Ceci est très important. Parce que bon, la division du royaume n'est qu'un châtiment qui ne durera pas éternellement. Il dit, c'est pour humilier les fils de David ou les descendants de David. Le droit de régner sur toute la nation appartient toujours à la maison de David. C'est pendant un temps que Dieu va enlever ce droit. Un jour, dans la personne du Messie, la dynastie davidique exercera à nouveau l'autorité royale sur les 12 tribus.
Le royaume du Nord, autrement dit Israël, appelé Israël, dure à peu près 200 ans et subit pendant ce temps une succession de 9 dynasties plus ou moins instables. Il y a un exemple d'un roi qui s'appelle Zimri, qui est lui-même régicide, il a tué son père, le roi, et lui-même ne règne que 7 jours avant de se suicider. Il y a un tas de choses qui se passent pendant cette période. Et la royauté n'est pas du tout stable pendant ces 200 ans d'Israël, le royaume du Nord. Et en dépit des avertissements que leur adressent les prophètes, en permanence, les Israélites, donc du royaume du Nord, s'enfoncent de plus en plus dans l'idolâtrie et dans l'injustice. Ils vont jusqu'à adopter les pratiques des adeptes du roi Moloch, ils vont sacrifier leur premier-né au feu de l'idole Moloch dans la vallée de Hinnon, là où ils mettent les enfants sur les bras enflammés de ce dieu et tombent dans le feu. Ceci, les Israélites le faisaient, tout comme les païens de l'époque. À ce moment-là, ainsi que pendant quelques périodes de la période des juifs, des juges, je veux dire, pendant ces périodes-là, Israël était aussi païen que ses voisins avaient adopté les mêmes dieux et les mêmes pratiques. Donc, ils vont jusqu'à ce point-là, en acceptant les dieux des nations autour. Et Dieu, finalement, n'en peut plus, on peut dire comme ça, je suppose. Il refuse d'aller plus loin avec ce genre de comportement. Alors, en 721, avant Jésus-Christ, la patience de Dieu est épuisée, car la patience de Dieu a une limite. La Bible nous le dit bien. Dieu anéantit donc à jamais la nation du royaume du Nord, et il les fait déporter, tous ces gens, par les Assyriens. Tout ceci est donné dans 2 Rois 17, versets 7 à 23. Le prophète Osée prédit ainsi, dans ses paroles, la chute d'Israël du Nord. Il dit, Osée 3, 4 à 5, « En effet, les gens d'Israël resteront longtemps privés de roi. Plus tard, ils reviendront au Seigneur. Ils se tourneront vers leur Dieu » et vers le descendant de David, le roi. Ça veut dire que le royaume du Nord ne renaîtra jamais en tant que nation indépendante. Mais plus tard, par contre, les Israélites non-judéens, les Israélites donc du Nord, se trouveront réunis à la maison de David sous l'autorité de l'héritier légitime du trône, c'est-à-dire le Messie. Puis en ce qui concerne le royaume du Sud, ce royaume-là, qui s'appelle Juda, dure un peu plus longtemps, il dure 350 ans. Et pendant ces 350 ans, il n'y a qu'une seule dynastie en place, c'est toujours la dynastie de David. Et parmi les successeurs de David, il y a plusieurs rois qu'on peut appeler justes et fidèles. Il y a Ézéchias, Josias, Asa, Josaphat, Joas, plusieurs rois fidèles. Mais la plupart des rois du Sud, comme leurs homologues du Nord, étaient des gens méchants et idolâtres. Ils ne valaient guère mieux que ceux du Nord. Ils se sont enfoncés avec le peuple dans les vices du paganisme, tout comme ceux du Nord ont fait. Et encore une fois, Dieu annonce une fin à sa patience avec ce peuple. Et en 586, Dieu ouvre le pays du Sud à Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, devenu la nation la plus puissante de la terre. Nebuchadnezzar vient assiéger Jérusalem, il détruit la ville, il détruit le temple, il enlève les plus importants en Israël et il annexe Juda pour son empire.
Et en conséquence de leur trahison envers Dieu, les Juifs se voient expulsés, comme les gens d'Israël du Nord, les gens de Juda, se voient expulsés de leur patrie, selon les conditions de l'alliance mosaïque. Parce que, rappelez-vous, on a lu le dernier discours de Moïse, n'est-ce pas? En Deutéronome 34, il a dit que si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, il va vous arracher d'un pays qu'il vous a donné. Donc le peuple élu n'a plus rien. Plus de roi, plus de temple, plus de ville sainte, plus de terre promise. Ils sont rien. Il s'agit, comme le montre bien le titre du livre du prophète Jérémie, les lamentations de Jérémie, de la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. Mais, c'est une période sombre, mais, il y a toujours un mais, heureusement, avec Dieu. En 539, selon les prophètes Ésaïe et Jérémie, et là je dis bien selon ces prophètes parce que Jérémie annonce un temps de 70 ans, et Ésaïe donne même le nom de ce roi, Cyrus. Cyrus le Grand, empereur de Perse, et je dis bien qu'Ésaïe a annoncé ça 150 ans avant que ça arrive, donc ça n'a pas pu être quelque chose de normal. En 539, Cyrus le Grand prend la ville de Babylone et ce qui marque la fin de l'Empire babylonien. Un an plus tard, si on peut fêter le mariage aussi, mais un an plus tard, ce qui est très important, Cyrus publie un édit impérial autorisant les déportés israélites et judéens, c'est-à-dire tout le monde qui se trouve dans, et vous avez là le schéma de l'Empire babylonien, et je crois aussi l'Empire perse à côté, il autorise à ces peuples à retourner dans leur pays. Seul un reste des exilés, au nombre d'à peu près 50 000, saisit l'occasion pour regagner la terre promise. Donc ils étaient des milliers à partir, il n'y a que 50 000 à peu près qui rentrent dans le pays. On appelle ça le reste fidèles dans la Bible. Là, les rapatriés se donnent trois tâches prioritaires. Reconstruire le temple, rétablir le culte selon les prescriptions de la loi de Moïse dans le temple, et de relever les murailles de Jérusalem. Et là, si vous voulez lire dans vos Bibles, dans les livres d'Esdras et de Néhémie, vous avez le récit de toutes les difficultés que ces gens ont dû subir à cette époque. Bien que réinstallé dans son pays, le peuple d'Israël demeure tout de même sous la domination des Perses et ne fera plus désormais que changer de maître, parce qu'après les Perses, ce sont les Grecs qui arrivent. Et puis après les Grecs, c'est qui? Les Romains. Et tout ceci, on n'a pas pris le temps, peut-être la prochaine fois on verra cela, le prophète Daniel annonce en détail. Bon, tout ça arrive. La restauration n'apporte pas donc le rétablissement du règne davidique qui était l'espoir de tout juif pieux. Ils espéraient ça, mais ce n'est pas encore là. Mais la restauration plante quand même le décor pour que cet espoir se réalise plus tard. Donc il y a un espoir, c'est peut-être ça, ou l'attente, c'est ce mot l'attente dont il faut se rappeler. Et nous verrons la réalisation de cette attente dans notre prochaine séance, le samedi prochain, avec un regard les temps d'accomplissement. Parce que là, jusqu'ici, si vous voulez, l'annonce maintenant, l'arrivée de ce qui va se passer. Voilà, pour aujourd'hui. Peut-être vous avez des questions, ou des remarques, des commentaires.